Durant ce mois béni de Ramadan, au cœur de l'islam vous propose de commencer vos journées avec un brin de spiritualité. Nous serons en ligne en votre compagnie tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, à partir de 6h du matin pour la rediffusion du meilleur de ce qui se trouve dans notre grenier. Quant au vendredi, vous découvrirez de nouvelles émissions avec de nouvelles thématiques proches de l'actualité. Au cœur de l'islam, c'est tous les jours sur Radio Alger chaîne 3 de 6h à 7h du matin et sur x.com, au cœur de l'islam, chaîne 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, Monsieur, bonjour. Merci de vous joindre à nous dans Au cœur de l'islam, votre rendez-vous certain sur Alger Chien 3. Kamel Shekat, salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alors, l'émission d'aujourd'hui est importante pour beaucoup d'entre nous, Kamel Shekat. Je voudrais commencer, si vous permettez, par une sentence de Ibn Ata'illah Sakandari. Ça prête sur Husn al-Dhanna Billah. Il nous dit, Ibn Ata'illah Sakandari, « Innam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi, fahassin dhannaka bihi li ajli mu'amalatihi ma'ak. Fahal awadaka illa husna, wahal asda ilayka illa mannan. »
D'accord. On va traduire à la volée comme d'habitude. Si tu n'as pas bonne opinion de Dieu, subhanahu wa ta'ala, pour ses beaux attributs, parce que quand Dieu, nous généralement, nous parlons des musulmans. Quand un musulman parle de Dieu, il est censé parler de lui comme Dieu même s'est décrit à travers les textes fondateurs, c'est-à-dire soit le Coran, soit ce qui nous a été rapporté par la tradition prophétique. Et quand nous parlons des beaux noms de Dieu, nous parlons aussi de ses beaux attributs. Sifatihi al-Ula.
Donc, si. Sifatihi al-Ula, donc Ghafour, Rahim.
Chaque nom est en soi un attribut. Alors, si tu n'as pas bonne opinion de ton Seigneur pour ses beaux noms et attributs, et bonne opinion de lui, ne serait-ce que pour la manière dont il te traite. Là, il y a un point très très important, c'est-à-dire que ici sur Terre, Dieu se comporte avec nous selon son infinie justice. C'est-à-dire que vous allez vivre votre vie selon ce que nous appelons Sunan al-Kawniya, les lois immuables de Dieu. Vous travaillez dur, vous allez réussir. Vous ne travaillez pas, vous ne réussirez pas, sauf si Dieu veut, bien entendu. Et c'est pour cela qu'il est dit « Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik » Ça veut dire que Dieu accorde autant aux incroyants qu'aux croyants de ses dons, de sa grâce, de ses bienfaits, et que tout cela n'a jamais été, obstrué pour qui que ce soit, qu'il soit croyant ou pas. Et Dieu, le jour de la résurrection, ou le jour où nous allons nous retrouver face à lui pour rendre compte de ce que nous avons fait, il va nous traiter selon sa miséricorde. Parce que si Dieu venait à nous traiter le jour de la résurrection selon son infinie justice, personne d'entre nous ne pourrait voir le paradis, à coup sûr. Et ça me rappelle un hadith que nous avons déjà cité, « Man nuqish al-hisab a'uddib », cet homme qui a adoré Dieu pendant 500 ans et dans l'intention de mourir en état de prosternation. « Kana yuridu an yamuta sajidan ». Il paraît que dans certaines versions, cet homme était borgne. Il n'avait qu'un seul œil. Et le jour où Dieu dira à ses anges, « Atrilu abdi al-jannata bi-rahmati »« Faites entrer mon serviteur au paradis par ma miséricorde », l'autre objectera en disant, « Oui, mais et mes œuvres, Seigneur ?» Parce qu'il a adoré, mine de rien, 500 ans. Et le fait d'avoir posé ce bienfait qu'elle a vu, ne serait-ce qu'avec un seul œil, sur la balance, va l'emporter sur toutes ses œuvres pendant 500 ans. Ceux qui ne pourraient pas comprendre cela, imaginez que vous perdiez la vue ne serait-ce que pendant une minute. Cette minute que vous allez vivre, vous allez vivre le pire moment de votre vie. Je dis cela parce que j'ai connaissance de certaines personnes qui ont subi des tensions oculaires et qui ont vu, mais alors qui ont vécu cette chute brutale de l'acuité visuelle qui a été vécue comme un cauchemar. Certains ont pu reprendre, d'autres se retrouvent avec des séquelles, mais le moment où ça s'est produit, pour certains d'entre eux, quand ils vous racontent ça, vous avez peur. Donc, imaginons, n'allons pas jusqu'à la cécité, imaginons juste ce moment où vous remarquez, vous vivez une diminution de la vie qui va être brutale. Qu'est-ce qu'un retour à la normale coûterait pour vous? Vous serez, beaucoup de gens seraient prêts à dépenser toute leur fortune pour retrouver la vue, pour retrouver la santé dans ces points les plus simples, on va dire. Donc, si tu n'as pas bonne opinion de Dieu pour ce que lui te dit de lui, en citant ses noms et attributs, et au moins bonne opinion de lui pour la manière dont il te traite. Oui, donc c'est, est-ce que tu as pris l'habitude de recevoir de Dieu autre que de bonnes choses, tant au niveau de ces dents qui ont trait à la santé, à ton intelligence, à ta vie de tous les jours, qu'en terme de subsistance. Là, nous sommes justement dans un tournant de l'histoire. Dans ce fait sans précédent, baptisé dorénavant Covid-19, nous avons tous eu l'occasion de cogiter, de faire une introspection sur nous-mêmes et de vraiment d'apprécier les bonnes choses de la vie, qui somme toute faite sont les choses les plus simples, c'est-à-dire il n'y a pas d'apparat, il n'y a pas de superflu. Ceci me rappelle justement ce fameux hadith du messager de Dieu, alayhi salatu salam, « Matalukum ka matalu qawmin, matalul qa'imi ala hududillah ». L'exemple de celui qui est respectueux des limites de Dieu et de celui qui ne les respecte pas. C'est l'exemple d'un groupe de gens qui ont tiré au sort pour se placer sur un bateau. À une partie, suite au tirage au sort, est revenu le pont, à d'autres, la cale. Ceux qui étaient dans la cale demandaient toujours à ceux qui étaient en haut de leur puiser de l'eau. Et à un moment donné, ceux qui étaient dans la cale se sont dit, pourquoi ne pas procéder à creuser un trou, faire une perforation dans la coque du navire ou du bateau pour puiser de l'eau de sorte à ne pas déranger ceux qui sont en haut. Peut-être que certains avaient été animés d'une bonne intention dans la mesure où ils ne voulaient pas déranger ceux du pont, ou peut-être que d'autres aussi, dans cette course à l'hégémonie, voulaient ne plus être tributaires de ceux qui étaient sur le pont. Et là, le prophète alayhi salatu salam nous dit, s'il les laissait faire, ils couleraient assurément tous, et s'il les en empêchait, le voyage se terminerait dans de bonnes conditions et chacun aura ou aurait ce qu'il voudrait. Donc, quand on parle de liberté, écoutez, les choses sont relatives. C'est quoi la liberté? Et puis, que peut nous apporter est-ce qu'on peut réellement appeler liberté un comportement désinvolte, un comportement qui ne se soucie guère ou dont l'auteur ne se soucie guère des autres?
Alors Kamel Chakat, cette crise sanitaire mondiale nous a poussé à réfléchir sur notre vie, notre quotidien, notre philosophie de la vie, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut peut-être changer et comment procéder justement. Sur tous les plans, nous avons pensé à ce que nous faisons, notre relation aussi avec Dieu.
Oui.
Est-ce qu'on a fait les choses peut-être pour quelques-uns de façon nonchalante? On sait que Dieu est Ghafour et Rahim, on se permet de faire des choses. Et puis on sait que Ramadan est là, durant Ramadan, Dieu subhanahu expie nos fautes et puis il nous promet l'Itr min al-Nar. Donc on peut faire tout ce qu'on veut tout au long de l'année, et Ramadan est là. Et puis on a aussi d'autres occasions d'expier nos fautes, alors Siyam Tisa ou l'Ashr de Muharram, quoi encore, Wukuf Arafa.
Dans le compute annuel, il y a plusieurs haltes, on va dire, qui vous permettent justement, qui ont cette faculté ou ce mérite que de rendre plus facile l'absolution des fautes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est vrai que beaucoup, il y a même quelques sectes, on va appeler ça comme ça, des genres de sectes musulmanes dont les auteurs font les 400 coups tout au long de l'année Et puis les 10 derniers jours de Ramadan, ils sont dans ce que nous appelons un i'tikaf, et puis donc ils sont dans une sorte de retraite pieuse où ils vont adorer Dieu assidûment pendant 10 jours et 10 nuits, mais alors on continue. Et puis dès que ça se termine, ils vont opérer un retour à la normale, à une normale jugée incorrecte vis-à-vis de Dieu.
C'est halt, Kamashkat, excusez-moi. Oui. C'est halt pourrait nous donner l'impression qu'on peut se permettre un petit relâchement dans l'assiduité envers Dieu, oui, puisqu'il y a plusieurs rendez-vous pour
justement
se corriger.
Justement, c'est la kabirata ma'astighfar. Il n'y a pas de péché capital avec la repentance. Wala sarirata ma'israr. Il n'y a pas de petit péché quand vous êtes justement dans la récidive. C'est l'intention qui va dominer.
Même si l'acte est minime ?
Oui, même si l'acte est minime. Alors, je fais ce que je veux. Je sais que le vendredi, il y a une heure où les prières sont exaucées. Donc, je fais ce que je veux tout au long de la semaine. Le vendredi, spécialement entre la prière de l'après-midi, l'Asr et le Maghrib, je vais me livrer à une séance d'adoration, de complainte, de supplique à Dieu, sans équivalent. Il y a des gens qui font des erreurs et qui, après coup, éprouvent du regret et se disent « plus jamais je ne referai ça ». Mais ils récidivent. Tant que ces gens-là sont toujours animés de cette bonne intention que de revenir vers Dieu, il n'y a pas de problème. Aussi majeur soit le méfait, Dieu peut l'absoudre. Il a ce droit, il a cette capacité, il a cette faculté.
Il y a aussi
oui, c'est-à-dire que
donc
qu'il n'y a pas
le c'est de faire dans l'associationnisme.
L'associationnisme, shirk, ou bien le fait d'associer à Dieu des
entités.
Oui, ça, là, vous atteignez une sorte de breaking point, un point de non-retour. C'est carrément un point de rupture.
Mais tout est pardonnable après.
Bien sûr, tout est pardonnable, mais même vous associez à Dieu quoi que ce soit et puis vous vous repentez sincèrement, Dieu se repent sur vous. Allah subhanahu wa ta'ala yatubu alayk.
Donc quelle est la limite ?
La limite, il n'y a pas de limite en fait. Ce qu'il y a, c'est justement c'est l'intention qui vous anime. Il y a des gens qui se croient intelligents. C'est-à-dire, voilà, Dieu, tu as dit cela et du fait que tu sois Dieu, tu es tenu, en quelque sorte, de respecter ton serment, tes propos vis-à-vis de nous, êtres humains. Alors que, et ça, c'est une erreur, parce que Dieu n'est tenu de rien. Si le jour de la résurrection, Dieu décide d'absoudre Iblis, et voilà, bon, alors le reste, même si vous avez bien agi durant votre vie, j'ai pris la décision de vous réduire en poussière, et puis plus personne n'entendra parler de vous. Est-ce que quelqu'un pourrait s'y opposer ? Personne. Nous partons du principe que nul ne peut s'opposer à une volonté divine.
Oui, mais Dieu s'est décrit.
Oui, le fait qu'il s'est décrit tel qu'il s'est décrit ne l'oblige à rien, ne le contraint nullement. Je connais des gens qui vous disent « Oui, moi, de toute manière, une fois par an, je vais au pèlerinage et je reviens chez moi comme le jour où ma mère m'a mis au monde. » Mais qu'est-ce qui t'a assuré ce que tu as fait ? Tu l'as fait dans c'est acceptable sur le plan licite, mais qu'est-ce qui te dit que Dieu a agréé tes œuvres ? C'est ça le problème.
C'est l'intention ?
Oui, est-ce que l'intention de base, ce qui a animé ce pèlerinage, ce qui t'a poussé à aller faire ce pèlerinage, est-ce que c'était vraiment quelque chose de sincère ? Est-ce que ça s'est fait dans la sincérité ? Quand vous savez qu'il y a des gens qui vivent pratiquement dans le péché en termes de subsistance. ماله حرام وأكله حرام
وشرابه
أشعث أغبر un homme portant sur lui les stigmates du voyage, les vêtements en poussière, etc. أشعث أغبر comme le dit le prophète sallam avec les cheveux
touffus,
etc. qui lève les mains au ciel et qui dit يا رب يا رب وأكله حرام وشرابه من حرام فإن يستجاب له. Il faut comprendre les choses comme il se doit. Nous sommes tous passibles d'erreurs. Nous pouvons tous faire des erreurs. Nous pouvons faire la même erreur N fois. Et à chaque fois que nous faisons cette erreur, nous nous disons, après coup, nous ressentons un regret. Nous nous disons, plus jamais je ne referai ça. Au moment où vous le dites et où vous vous repentez, Dieu accepte votre repentir.
L'intensité du regret ?
Oui, c'est l'intensité du regret. C'est le fait déjà qu'il y ait regret qui va jouer en votre faveur.
Mais les conditions que Dieu accepte ce regret et ce retour à lui, c'est que nous ne refaisons pas la même
oui,
chose.
Oui, mais déjà le
et
fait...
Et moi, je le refais.
Oui, mais au moment où vous vous êtes repenti, vous avez pris sur vous de ne plus refaire la faute. C'est-à-dire au moment même où vous vous êtes repenti, votre repentir... obéissez aux règles requises. Vous étiez dans la sincérité la plus totale. Ce qui n'est pas admis, c'est justement cette idée qu'ont certains que Dieu, de toute manière... dans tel verset ou dans tel hadith, voilà ce qui a été cité au sujet de Dieu. Pour certains, je dis cela pour avoir discuté avec des gens qui sont dans cette logique, pour certains, Dieu s'est tenu à un certain nombre de choses qu'il est dans l'obligation de concrétiser ou d'observer, alors que ça n'est pas le cas. C'est pour cela qu'il a été dit « wala sarirata ma'a israr ». Quand vous faites quelque chose et vous vous dites « voilà, au moment où vous êtes en train de faire la faute, allez, maintenant je me repens, mais bon, si l'occasion se représente, je referai la même chose, je referai la même faute ». Là, franchement, aussi minime soit la faute, elle ne l'est pas pour vous, parce que vous êtes dans une sorte de déni qui ne plaît pas à Dieu.
Quel type de faute existe-t-il, Kamal Shekat ? Et puis, est-ce que la repentance doit se faire de la même façon pour toutes ces fautes ?
Écoutez, les compagnons du prophète, alayhi salatu salam, ne posaient pas de questions quant aux fautes. Il est vrai que nous avons
vis-à-vis
des péchés,
humains, vis-à-vis de Dieu,
vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis surtout d'eux-mêmes. Normalement, c'est Ibn Mas'ud qui disait « Innakum la ta'touna af'alan ou bien a'malan kunna tarawnaha adqa min ash-sha'ra » Vous accomplissez, vous faites des choses qui vous paraissent aussi fines qu'un cheveu que nous comptions à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi des péchés capitaux. « Kunna na'udduha fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min al-kaba'ir » En fait, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient dans un système binaire. C'est bon ou pas bon. Quand le messager de Dieu alayhi salatu salam faisait quelque chose, il le faisait sans même essayer de savoir s'il s'agit d'un acte obligatoire ou d'un acte surérogatoire. Et quand le messager de Dieu alayhi salatu salam ne faisait pas quelque chose, il s'en abstenait tout simplement, sans même poser de questions. Donc, il est vrai qu'il y a des fautes qui sont consignées dans les textes fondateurs et cité comme étant des fautes graves qui nécessitent un repentir rapide, immédiat, c'est-à-dire que vous êtes dans un domaine où on ne joue plus, permettez l'expression, et il y a des fautes qui sont inhérentes à la faiblesse humaine, qui peuvent être dues à l'oubli, à l'erreur, à la contrainte, etc. Ça, là, subhanallah, le Dieu subhanahu wa ta'ala est plus que, je vais dire, il est même complaisant, c'est-à-dire qu'il vous lâche la bride au maximum, comptant un peu sur votre sens du respect même des limites de Dieu. Même s'il y a ce que nous appelons le kaba'ir, normalement, nous ne devrions pas trop nous poser de questions à ce sujet. Ça me rappelle aussi cette... je ne sais pas si c'est Abdullah ibn Mas'ud ou bien Mu'ad ibn Jabal qui passe par un groupe de gens qui étaient en train de discuter. Ils étaient là en train de compter leurs bonnes actions. Et c'est ce que, malheureusement, avec la méconnaissance même des principes de base de l'islam, c'est ce que nous remarquons sur les réseaux sociaux. On vous envoie un petit texte, voilà, si tu lis ceci, tu comptabilises tant d'actions, si tu l'envoies, voilà ce que tu vas comptabiliser, etc. Ça n'a absolument rien à voir avec l'esprit que nous a légué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Thank you.
Alors Kamel Shekat, avant de prendre conscience de sa faute, de ses péchés, de cette infraction vis-à-vis de nous, de Dieu, des autres, avant l'examen de conscience déjà, est-ce que ces péchés ont un impact sur nous, sur notre santé, sur notre quotidien, dans nos rapports avec les autres? Est-ce qu'il y a des traces? Ibn Qayyim Jawziyyah, il vous dit le ma'asi wal fasad tujibu al-ham wal gham wal khawf wal huzn wa dayq sadr wa amrad al-qalb wa la dawa laha illa tawba wal istighfar.
C'est vrai.
Mais vous pouvez observer autour de vous, Kamel Shekat, des gens qu'on croirait peut-être sur un plan orthodoxe pas très sains, mais qui vivent bien, qui sont heureux, qui n'ont aucun problème, qui sont riches.
Oui, mais attendez, là tout dépend de l'idée que l'on a même du bonheur ou de la richesse. Beaucoup sont riches et semblent être heureux, mais ils ne le sont pas.
De quelle richesse s'agit-il ?
Et ils sont, écoutez, il y a nous, surtout dans des pays comme le nôtre, vous avez, il y a beaucoup de milliardaires, il y a énormément de milliardaires, mais beaucoup sont beaucoup plus des anciens pauvres que de nouveaux riches. C'est-à-dire que qu'au fond d'eux-mêmes, ils restent d'une indigence, d'une pauvreté incroyable. Et c'est pour cela que le messager de Dieu, alayhi salam, a dit, Rina nafs. La richesse, c'est la richesse de l'âme. Vous avez les كلب الران على قلوبهم ما كانوا يعملون. Il y a ce mot ran, c'est une matière qui va envelopper le cœur, le rendre plus dur, le rendre réfractaire à tout sentiment,
c'est-à-dire hermétique.
Qu'il est là, il est hermétique en quelque sorte. Et le problème, c'est que j'ai lu dernièrement un document parce que j'étais en train de faire une traduction pour une revue qui parle justement d'insupérabilité scientifique dans le Coran. Et alors il y a justement, la science parle d'une sécrétion qui se fait au niveau du corps pour les personnes qui sont dénuées de sentiments, dénuées de sentiments religieux, qui sont vraiment aux antipodes de ce qui est souhaité par Dieu. Et on a remarqué chez eux qu'ils étaient insensibles pratiquement. Et c'est comme une sorte de déshumanisation qui prend cours, qui commence chez l'être humain, qui est loin vraiment de tout ce qui a rapport avec...
Donc ce processus chimique et biologique existe réellement ?
Il existe bel et bien. Nous essaierons dans la prochaine émission d'en parler avec plus de détails. En faisant justement un petit travail sur ce qui a été consigné dans le domaine des neurosciences quant aux phénomènes religieux. Mais il est clair qu'il y a des gens qui... même s'ils ne sont pas très riches, ou même s'ils sont par moments dans une pauvreté confirmée, dégagent une paix de l'âme, une richesse de l'âme, un bonheur que vous ne trouverez pas chez beaucoup de gens qui ont énormément d'argent et qui passent leur temps à courir derrière des futilités. Chacun de nous a des exemples dans son entourage immédiat. Vous savez, c'est... je ne sais pas si je reviens un peu en arrière, bon, quelques décennies, j'ai ce souvenir de certaines personnes qui ont toujours été de conditions modestes, mais qui, dès qu'il y avait quelqu'un de malade dans la famille, ils étaient les premiers à venir, de très très loin. Dès qu'il y avait le moindre souci pour quelqu'un, ils étaient là. Dès qu'ils entendaient parler du moindre problème, aussi, vous pouvez être milliardaire, ils viennent là pour proposer de l'aide. Et ce qui est frappant, c'est que quand bien même vous seriez riche, je parle ici de fortune,
matériel,
d'argent, de numéraire, le fait de les voir vous console et vous met plus à l'aise et vous donne du courage. Alors, ma foi, si ça n'est pas de la richesse, si ces gens ne sont pas des puits de bonheur, des puits de sagesse, qu'en est-il réellement ? C'est l'expérience personnelle de chacun d'entre nous qui le dit. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller faire Oxford ou Stanford pour comprendre ce phénomène. Tout le monde l'a vécu. Et remarquez que ces gens-là, pour la plupart d'entre eux, ont vécu très très longtemps et sont morts, même à l'âge de 90 ans, ils sont morts jeunes, sans avoir de diabète, d'hypertension, sans avoir porté de lunettes, sans avoir perdu leurs dents. C'est l'image que, personnellement, j'ai d'au moins une dizaine de personnes que je connais. Et il m'est arrivé d'en discuter avec des amis, comme ça, lors d'assemblées. Et chacun, justement, a en mémoire des exemples de ce type. Et j'espère que nos auditeurs se remémorant justement des gens, et le fait de se remémorer ces gens-là vous ramène à la vie, mais par une porte qui donne bon espoir. Et ça, c'est l'un des bienfaits justement de la religion, normalement.
Donc, Kamal Shekat, Qaswat al-Quloub, est une résultante des péchés ?
Absolument. Puisque vous avez cité tout à l'heure Ibn al-Qayyim, lui-même rapporte certains témoignages de personnes vertueuses qui disent que suite à, on va dire, à des écarts passagers, ponctuels, ils ont même remarqué que leur bête de somme, soit leur monture, un cheval ou un chameau, ou bien la vache qu'on a l'habitude de traire tous les jours, ils ont ressenti justement, même au niveau de leurs bestiaux, une sorte de rejet. Le chien qui n'obéit plus, la mule qui risque de vous désarçonner. Donc ça se ressent au niveau de la famille aussi. Il y a des tensions, il y a une multitude de choses ou de signes qui vous alertent, qui vous disent voilà, il y a quelque chose qui ne va pas bien, il va falloir te rectifier.
Alors Kamal Shekat, on va rester dans le savoir et la connaissance que nous a laissé Ibn Qayyim al-Jawziya, qui a compris des choses qui ont été diffusées par le prophète alayhi salatu wasalam. Ibn Qayyim nous dit « Le qalb kullama ishtaddat bihi al-ghafla ishtaddat bihi al-qaswa fa idha dhakara Allah dhabat tilka al-qaswa kama yadhubu ar-rasas fi an-nar. » Alors, prendre conscience, faire un examen de conscience, Kamal Shekat, comment faire ce retour à Dieu?
Alors, il dit « Le qalb kullama ishtaddat bihi al-ghafla ishtaddat bihi al-qaswa. »
L'insouciance?
Oui. Bon, quoique, là aussi, n'oublions pas une chose. Hein. Comme l'a dit normalement le Hassan al-Basri, « Laoula al-ghaflatu lama uqimati al-aswaq wa lama machannasu fit turuqat. »
Mais il y a ghafla.
S'il n'y avait pas eu justement cette insouciance qui est innée chez l'être humain, nous n'aurions eu ni marché, ni le fait d'avoir des infrastructures. Donc les humains, le fait d'être rattachés à la vie d'ici-bas, a aussi du bon. Alors, plus on est insouciant, plus on est éloigné de Dieu, plus le cœur s'endurcit. Et donc, le fait d'évoquer Dieu fait fondre cette dureté du cœur, tout comme le plomb est fondu, ou tout comme le plomb se fend au contact du feu. C'est ce que veut dire Ibn al-Qayyim. Ceci est vrai, bien entendu, parce que j'ai pas envie de m'incriminer personnellement, mais c'est ce qu'on ressent chacun.
Monsieur Shekat est prêt à faire des révélations. Hein?
Non, pas du tout. Oubliez ça. Dieu, subhanallah, Dieu nous. C'est l'une des bontés ou l'un des bienfaits de Dieu sur nous qu'il dissimule nos fautes et qu'il ne les dévoile pas.
Il nous est même interdit de les révéler et
oui,
d'en parler.
Oui, là bon, autres, si quelqu'un fait un mea culpa et par ce mea culpa, il peut aider des gens à se redresser, à revenir sur le droit chemin, c'est bon. Mais le mujahir, c'est celui qui le fait en guise de défi, en quelque sorte. Oui, voilà, hier j'ai fait ci, j'ai fait cela.
Il y a même hadith du prophète, oui.
Yabitullahu yasturuhu, tu dissimules ses erreurs et lui les dévoile au grand jour.
Comment prendre conscience, Kamal Shekat, à Dieu, à sa présence avec nous? C'est un signe de husn dhan billah, justement, de bonne opinion de Dieu, parce qu'on fait ce retour, on espère qu'il nous pardonne.
Oui.
Comment justement aller vers cette attitude? Comment la réussir?
Vous savez, le...
Qu'est-ce qu'il faut se mettre en tête en premier, Kamal Shekat?
En ce qui me concerne, je me dirais que peut-être que le meilleur moyen, c'est que nous-mêmes prenions en ligne de compte le fait qu'il nous faille aussi faire bonne figure afin que Dieu ait une bonne opinion de nous. C'est-à-dire avant même d'agir, je suis conscient que tout ce que je fais ne peut échapper à Dieu et qu'à ce titre, je dois faire le maximum pour donner toujours à Dieu la meilleure image de moi-même. C'est à ce prix justement que l'on comprendra ce qu'est cette bonne opinion que nous sommes censés avoir de Dieu.
Sayyid Istighfar, Kamal Shekat?
Sayyid Istighfar,
ça résume tout.
Oui.
Il y a la notion de tawhid, la profession de foi.
elle y est
on
inclue.
Reconnaît que c'est lui notre Dieu, notre divin.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Seigneur Dieu, tu es mon Seigneur et il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduk. Tu m'as créé, je suis ton serviteur. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mustata'at. Je suis fidèle aux engagements qui me sont dus vis-à-vis de toi et à ce que moi-même j'ai pris sur moi comme engagement. Autant que je le peux, ou autant que faire se peut.
Cet allègement
de Dieu, c'est une miséricorde divine. Dieu nous le dit dans le Coran. Craignez Dieu autant que vous le puissiez. Vous avez aussi ce hadith du messager de Dieu. Daruni ma taraktukum, fama amartukum bihi fa'atu minhum mastata'tum, wa man haytukum anhu fantahu. Quand je vous ordonne quelque chose, faites-en ce que vous pouvez. Quand je vous interdis quelque chose, abstenez-vous-en. C'est-à-dire que l'essentiel, toujours, c'est de freiner le mal. Même si le bien peut être retardé, l'absence du mal est en soi un bien. Essayez de comprendre cela. Ça, c'est comme les gens qui vous disent « Oui, moi, je ne crois pas en Dieu parce que si Dieu existait, le mal n'existerait pas. » Mais tout est relatif. Si le mal existe, c'est parce que le bien s'est retiré de la sphère. La nature n'admet pas le vide. Tout est relatif. Donc là, nous sommes dans une plein pied dans la miséricorde divine. « Wa ana ala ahdika wa adika mustata'at » Je me réfugie auprès de toi contre ce que j'ai commis de mauvais. Je reconnais tes bienfaits sur toi et je reconnais ma faute. Absous-moi ou pardonne-moi car nul autre que toi ne pardonne les fautes. On l'appelle Sayyidul Istighfar. C'est un hadith normalement que chacun d'entre nous devrait lire au moins une fois le matin et une fois le soir. C'est le maître ou le roi, le paroxysme même de l'absolution, on va dire. Parce que vous demandez à Dieu de vous absoudre par ce type de prière en lui reconnaissant autant d'attributs et de bonnes choses ou de inhérente.
Les soufis voient des degrés de la foi dans ce hadith, dans ce Sayyid Istighfar Kamal Shakat. Il y a d'abord le tawhid.
Oui.
Il y a du istighfar, il y a les noms de Dieu, donc reconnaissance des attributs de Dieu.
Oui.
Il y a la limite de l'être humain face à la grandeur de Dieu, subhanahu.
Oui, mais le problème, vous savez, le problème finalement, là nous sommes, c'est vrai que quand les...
L'être est limité finalement,
oui,
c'est ça
clair,
la grande reconnaissance.
Mais la dissertation religieuse concernant justement ce hadith, qui en est faite par des soufis, les laisse à désirer dans la mesure où... Là, vous avez cité tout à l'heure Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim est un grand juriste, un grand savant.
Disciple d'Ibn Taymiyyah.
Disciple d'Ibn Taymiyyah, dont l'une des œuvres magistrales, c'est Madarij al-Salikin. C'est un livre. Alors, Madarij al-Salikin, donc les étapes ou bien les marches, en quelque sorte,
des
cheminants, par lequel il va interpréter Manazil al-Sa'irin.
Donc, l'imam al-Harawi.
De l'imam al-Harawi, qui était un soufi, mais alors soufi jusqu'à la moelle. Et ce qui est bien avec Ibn al-Qayyim, c'est que quand il a lu Manazil al-Sa'irin, il l'a interprété, il est revenu sur un certain nombre de préceptes qu'il jugeait inadéquats. Mais ceci ne l'a pas pour autant porté à discréditer al-Harawi ou bien à lui adresser une diatribe comme le font les demi-savants d'aujourd'hui. Le problème est
le respect envers les savants,
oui,
de tous bords.
Mais le problème est que Ibn al-Qayyim, quand vous lisez ses livres, même quand vous êtes dans l'aspect juridique, fiqh mahd, il y a toujours une pointe de spiritualité à l'intérieur. Vous savez, Ibn al-Qayyim a de loin dépassé Ibn Taymiyyah. J'ai compulsé Mujmu' al-Fatawa, Minhaj Sunna, pratiquement tout ce qui a été écrit par Ibn Taymiyyah plusieurs fois. Pourquoi ? Parce que j'en ai carrément fait pendant une dizaine d'années. Enfin, tout ce qui a été écrit par Ibn Taymiyyah était un livre, une sorte de livre de chevet. Par exemple, Mujmu' al-Fatawa, qui était plus qu'à la portée. C'est-à-dire que du lit, je pouvais prendre Mujmu' al-Fatawa pour consulter par quelques questions. Ibn al-Qayyim, à mon sens, a de loin dépassé Ibn Taymiyyah. Il a excellé dans tous les domaines, pratiquement. Mais le problème, c'est que tout rigide qu'il était, du moins comme le considèrent certains, vous savez, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir cela en Syrie, la tombe d'Ibn al-Qayyim se trouve sur l'allée, sur la chaussée pratiquement. Et des soufis ont tout fait pour le laisser tel quel, juste pour l'humilier après sa mort. C'est des soufis qui ont décidé de cela. Vous imaginez, il y a des soufis pour lesquels c'était une vertu que d'aller faire ses besoins sur la tombe d'Ibn Taymiyyah ou d'Ibn al-Qayyim. C'est des gens qui se réclament du soufisme.
Quel type de soufi, Kamal
Shekhar? Minhum bara. On ne peut pas les considérer en tant que tels. Mais ce que je veux dire
vous
par
parlez
là,
de qui? Des Abdel Qadir Jilani ou là, des Sakandari ou bien des nôtres, des Sijani?
Pas du tout cela. Mais il y a dans plusieurs fractions ou factions soufis, il y a des gens qui en ont fait un point d'honneur. Aller jusqu'à la tombe d'Ibn al-Qayyim juste pour lui cracher dessus.
Mais Kamashkat, le soufisme, c'est la religion.
Oui, je sais.
Être musulman et faire pareil acte.
Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez parlé de ce fameux Sayyid l'Istighfar et de la dissertation que font à ce sujet certains soufis, je me dis que tout cela, finalement, reste des propos, des paroles. Il y a, dans le comportement au quotidien, des choses très très simples à faire qui vous placent très très haut dans cette échelle que Dieu seul peut apprécier. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une somme de connaissances équivalente à celle d'Ibn al-Qayyim ou d'Ibn Taymiyyah. Et on n'a pas besoin d'avoir un palmarès aussi important que celui de Abd al-Qadir al-Gaylani ou bien de Abul Hassan Shadouli, rahmatullahi ala al-Jami'a.
Ou bien les nôtres, on en a beaucoup eu ici en Algérie, en Afrique du Nord ou au Maghreb.
Sidi Boumedien, rahmatullahi alayh. Certains contesteraient peut-être le fait que je dise Sidi Boumedien, je dis Sidi Boumedien comme je dirais Sidi Abd al-Rahman.
C'est monsieur,
Sidi Abd al-Rahman. Ça ne pose pas de problème.
Heureusement.
Non, mais vous savez, la méconnaissance justement de ces gens-là a fait que beaucoup de ceux qui se croient sur la bonne trajectoire de l'islam, leur méconnaissance justement de ces gens-là a fait qu'ils ont eux-mêmes dévié. Mais quand vous prenez quelqu'un comme Sidi Boumedien, c'était un mujahid. C'était quelqu'un qui avait les pieds sur terre. C'est une personnalité qui est allée combattre les croisés en Palestine, qui a, une fois là-bas, acheté tout un domaine laissé en dotation, en waqf, pour les étudiants qui allaient essentiellement d'Algérie, de cette partie centrale du Maghreb, de l'Occident musulman, qui allait jusque là-bas pour étudier. Le monsieur, il est revenu de Palestine avec un bras manquant, qu'il a perdu en pleine bataille. Et là, vous voyez quelqu'un qui a quelques poils sur le menton, et qu'il y a un siwak comme ça en train d'utiliser pour montrer qu'il est plus conforme que
n'oubliez
d'autres.
N'oubliez pas le khamis nesfsar kamal shakat.
Et donc c'est cet accoutrement qui va faire que tu es meilleur que Sidi Boumedien. Je suis désolé.
Mais Sidi Ahmed Tijani ou la Cheikh Al-Alawi ou la Darqawi.
C'est clair. Tout le monde, tous ces gens-là ont su marquer leur époque par quoi? Par une certaine modestie, par une simplicité dans l'acte, mais par beaucoup, apparemment, la nuzki ala Allahi ahada, il y avait beaucoup de sincérité dans ce qui a été entrepris. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas la somme de connaissances que nous avons sur le plan théologique qui va faire la différence. C'est ce petit geste. Quand je dis le petit geste, il me revient en mémoire cette prostituée des enfants d'Israël qui a abreuvé un chien. Il me revient cet homme qui était aux antipodes des décrets de Dieu et qui, par peur de se retrouver devant Dieu, va demander à ce que son corps soit brûlé, incinéré, et les cendres, une fois calcinées, dispersées au gré des vents et dans l'eau. Donc ce sont ces petits gestes que Dieu apprécie. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que autant Dieu apprécie les bons gestes, autant il accorde de l'importance à des gestes qui semblent très très petits pour nous, mais qui ne le sont pas à ses yeux.
Qui sont réguliers aussi, Kamal Shakat ?
Pas forcément. Vous faites quelque chose. Vous faites quelque chose qui, sous l'effet de la colère ou parce que, vous, voilà, moi, je suis rebelle ou je ne sais quoi. Et ça va être comptabilisé et servir de témoignage contre vous, alors que vous, vous n'y avez même pas prêté attention. C'est comme ce fameux hadith où le messager de Dieu parle à l'un de ses compagnons de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut accomplir au quotidien. Il parle de la prière, il parle de ceci, il parle de cela. Et à la fin, il lui dit « Emsik alayka lisanak »« Retiens celle-là » en parlant de la langue. Et l'autre lui dit « Allons-nous rendre des comptes pour ce que nous disons ?»« Alatakiletka ummuk » »« Que ta mère te perde » Qu'est-ce qui plonge les gens dans le feu de la GN? Ça n'est pas ce que leurs langues ont récolté. C'est ça, c'est-à-dire que, vous savez, il arrive à beaucoup de gens que beaucoup de nos concitoyens connaissent, qui passent à la radio, à la télé, quand nous sommes entre nous, nous en parlons. Beaucoup, vous êtes par moments frappés quand quelqu'un que vous considérez comme savant vous dit... Par Dieu, avant-hier, je faisais un prêche dans telle mosquée, et il y avait dans l'assistance un homme qui a fait ci, qui a fait ça. J'avais honte de me retrouver à cette place en train de disserter sur l'islam, sachant que dans l'assistance, il y avait quelqu'un qui me dépassait de très très loin en termes d'action et en termes de sincérité vis-à-vis de Dieu. Donc vous voyez, ce sont ces gestes-là. Et même quand on parle de science, nos maîtres nous disent, nous ont appris, la véritable science, c'est quoi? C'est l'acte. Il y a des gens qui sont plein pied dans l'acte, aussi simple soit-il, alors que certains, comme nous, restent dans la dissertation, aussi élaborée soit-elle. Qu'est-ce qui va vraiment plaider pour nous le jour de la résurrection?
Le hadith Kamal Shakat du prophète alayhi salatu wasalam, il parle d'un homme qui est assidu dans ses bonnes actions.
Oui, c'est-à-dire quelqu'un qui est vertueux et qui, s'il venait à jurer, Dieu ferait en sorte que son serment soit respecté. Nous avons dans l'histoire même, à l'époque même de la révélation, il y a un grand compagnon dont des gens sont venus réclamer le talion ou invoquer la loi du talion contre sa sœur qui avait cassé les incisives d'une femme lors d'une rixe ou quelque chose comme ça. Et ce compagnon dont le nom m'échappe là a juré à un moment donné disant « Par Dieu, cela ne se produira pas » parce qu'il est venu insister auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il intercède, pour qu'il y ait quelque chose. Finalement, lui, il est parti et les gens... sont revenus à de meilleurs sentiments, d'eux-mêmes, en quelque sorte. Parce que c'était quelqu'un qui jouissait d'une moralité vraiment irréprochable. Donc, il y a des gens que Dieu assiste dans des moments de ce genre.
C'est... Qu'on méprise même, Kamal Shakat.
Comment ça, qu'on méprise?
Parce que dans le hadith, le prophète, alayhi salatu wasalam, dit « Rubba ash'asun madfou'an bil abwab, law aqsama ala Allah la abara ».
Oui.
Donc c'est
des
qu'on
gens,
méprise.
Oui, bien sûr, des gens qu'on repousse, oui. Mais qui sont... Et c'est ça. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, parle aussi d'une catégorie de gens qui sont insignifiants, c'est des musulmans lambda. S'ils sont présents, « Ida hadarou lam yu'arafou » quand ils sont dans l'assistance, personne ne les connaît. « Wa ida rabou lam yuftaqadou » et quand ils sont absents, personne ne demande après eux. Mais ces gens-là jouissent auprès de Dieu d'un rang tellement élevé qu'il laisserait sidérer le meilleur d'entre nous. C'est, vous savez, c'est ça, c'est les... Une bonne intention, c'est ça, c'est agir pour, juste pour bien agir. C'est, y a cette anecdote qui s'est déroulée à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Il y a un voyageur qui est entré dans le domaine d'un autre et je crois que son chameau a saccagé quelques arbres ou quelque chose comme ça. Et l'autre, alors le propriétaire de la terre a frappé le chameau, l'a tué. L'autre a encore a pris une pierre, je pense, et a frappé l'homme en question et l'a tué. Et voilà, il a été capturé, rattrapé par les frères de la victime. On le ramène auprès de Omar ibn Khattab. Et là, Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer la loi du talion, tout simplement. Et à l'homme de dire, commandeur des croyants, je suis détenteur d'un dépôt de confiance, un des amana, concernant des orphelins. Si vous me tuez là maintenant, ce trésor en quelque sorte, cette somme d'argent, ces pièces d'or, je les ai cachées en un endroit sûr, il n'y a que moi qui le connais. Donnez-moi juste 3 jours pour aller récupérer cet argent, le remettre à ses ayants droit et revenir. Mais c'est un sahabi, je pense que c'est Abu Dhar al-Ghifari, si je ne m'abuse, qui s'est porté garant. Et le fait de se porter garant dans une affaire de ce genre fait que si la personne... Au cas où la personne ne reviendrait pas, c'est vous qui allez subir la sentence à sa place. Donc la personne est partie, et au troisième jour, juste avant le crépuscule, parce que la journée, elle se termine au crépuscule, sur un plan légal, sur le plan spirituel, religieux, un nouveau jour commence pour nous musulmans à partir de Adhan al-Maghrib. C'est là, c'est pas à minuit. Et donc juste avant le crépuscule, tout le monde était là, aux abords ou à l'entrée même de Médine, attendant cet homme. Et alors que tout le monde désespéré, il paraît que normalement c'est Abu Dhar al-Ghifari. Alors à un moment donné, Omar ibn Khattab a dit « Présentez-le à la natte », c'est-à-dire on allait carrément le décapiter. C'est à ce moment-là que l'homme revient. L'homme est revenu. Et là, Omar ibn Khattab, ce qui est beau dans ce que nous apprenons des premiers, c'est cette faculté qu'ils ont de tirer enseignement de tout, de toutes les situations. Alors, Omar ibn Khattab va dire à Abu Dhar, s'il n'était pas revenu, on t'aurait exécuté à sa place. Qu'est-ce qui t'a porté ou qu'est-ce qui t'a incité à te porter garant pour lui? Il a dit, j'ai fait cela pour que nul ne puisse dire qu'il n'y avait plus d'humanité dans les gens, que les gens ne respectaient plus rien du tout. Donc je me suis porté garant parce que le type avait l'air sincère. Et à l'autre, il dit, toi, tu aurais pu ne pas venir, c'est lui qui aurait subi. Qu'est-ce qui t'a incité à revenir? Il a dit, je suis revenu pour que nul ne dise, la parole est perdue chez les gens. Les gens ont perdu le sens de la parole. Et puis les ayants droit, les proches de la victime ont dit, et nous pardonnons. Et qu'est-ce qui vous incite à pardonner? Ben nous pardonnons pour que nul ne puisse dire que la mansuétude est perdue chez les gens ou s'en est allée. Donc vous voyez, c'est...
L'élan d'humanité. Ça nous rappelle aussi l'histoire de Abu al-As, l'époux de Zaynab, la fille du prophète alayhi salatu wasalam, qui lorsqu'il a décidé, quand il a été pris en otage à Médine, il a décidé donc de se convertir à l'islam. Il leur a demandé de lui laisser un temps pour aller remettre les dépôts.
Oui.
Pour revenir après et
pour
se convertir.
Pour revenir à Médine. C'était après la bataille de Badr.
Oui, bien sûr.
Pour qu'une fois revenu, nul ne dise qu'il s'est converti sous la menace de l'épée.
Oui, mais il a rendu les dépôts d'abord à Manan.
D'abord, oui. Tumamat ibn Atal, Sayyidul, l'un des grands notables du Yémen, il était captif à Médine. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voyait en lui vraiment un bon parti. C'est-à-dire, si quelqu'un comme lui venait à se convertir, c'était quelque chose... D'ailleurs, il s'est converti à l'islam, il a embrassé l'islam, et il a procédé à un blocus économique contre la Mecque. Hein. Pendant un certain temps, il ne leur parvenait plus un seul grain de blé, venant justement de l'Yamama. Et cet homme, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui faisait du charme, on va dire, pour l'attirer vers l'islam, a été plus que réfractaire. Et puis, à un moment donné, bon, il fallait le libérer, il le libère, il sort de Médine et revient en musulman. Pourquoi as-tu fait cela? Pour que nul ne dise que j'ai fait cela sous l'effet de la contrainte ou sous l'effet de la peur. Alors, l'intention, il y a une bonne intention, elle peut être aussi animée par un sentiment autre que religieux, par quelque chose de bien, tout simplement. Mais le résultat est là. C'est-à-dire que nous vivons nous-mêmes dans une société où nous remarquons cela. Il y a des gens qui sont, doctrinalement parlant, dans l'ignorance la plus totale, mais qui ont des gestes de chevalier. Il faut toujours essayer de faire dans cette simplicité.
La chevalerie, le futuwa.
Oui, il faut tout le l'esprit chevaleresque, le moro.
Très bien. Eh bien, merci à vous, Kamache Kat, pour tous ces détails. Mais on n'a pas encore fini avec la repentance, avec l'espérance et l'optimisme. Quant à vous, chers auditeurs, si vous voulez en connaître davantage, eh bien, retrouvez-nous à 6h sur Alger Chien 3. Merci à vous. Excellente journée à tous.
لنا لإجابته فمحمد سيدنا فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا من